Bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom de la faculté de philosophie des facultés Loyola Paris pour cette rencontre consacrée à la parution d'une nouvelle traduction philosophique du Faust, première partie de Goethe par Laurent Gallois. Cette publication s'inscrit dans un long compagnonnage avec la langue et la pensée allemande des 18e et 19e siècles, compagnonnage dont témoignaient déjà ces traductions de Hegel, La raison dans l'histoire, et de Kant, La religion dans les limites de la simple raison. Traduire Faust dans un tel horizon n'a donc rien d'anecdotique, c'est prolonger une familiarité profonde avec une langue philosophique dense, exigeante, parfois redoutable, mais aussi intensément vivante. Car Faust n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la littérature européenne, c'est une œuvre absolument majeure de la culture allemande, l'une de celles qui pendant des décennies, et je crois que c'est en train de changer malheureusement dans un certain nombre de Länder, ont formé des générations entières de lecteurs, d'élèves et d'étudiants. Elle a contribué à façonner une mémoire culturelle, une sensibilité intellectuelle et aussi une certaine manière d'éprouver les grandes questions du savoir, du désir, de l'action, du mal et de la limite humaine. Ce qui rend cette traduction particulièrement précieuse, c'est qu'elle ne cherche pas seulement à restituer le sens du texte ou sa portée philosophique, elle s'efforce aussi de rendre la musicalité de l'écriture de Goethe, de son énergie, de sa tension, de sa force. Et c'est essentiel car Faust n'est pas une œuvre que l'on saisit seulement par le concept, c'est une œuvre qui avance par rythme, par souffle, par intensité dramatique. La traduire, c'est donc aussi faire entendre une voix et transmettre quelque chose de cette puissance d'écriture qui fait de Goethe non seulement un penseur, mais un très grand écrivain. Or, nous avons ce soir la chance d'entendre deux grandes lectrices de la pensée et de la culture allemande. Je suis d'abord heureux de saluer Daniel Kohn, professeur émérite d'esthétique et de philosophie de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, grande spécialiste de Goethe et à qui l'on doit notamment la lyre d'Orphée, Goethe et l'esthétique. Je salue également Julia Christ, philosophe rattachée au centre de recherche l'IRFIT du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales, dont les travaux sur la pensée allemande moderne et contemporaine apporteront un éclairage particulièrement précieux à notre échange. Et je voudrais enfin remercier très chaleureusement Laurent Gallois pour ce travail considérable. Une telle traduction du savoir demande du savoir, de la rigueur, de la patience, mais elle demande aussi de l'oreille, du tact, un sens profond de la langue et cette fidélité rare qui sait tenir ensemble la pensée et l'écriture, le concept et le rythme, l'intelligence du texte et sa vie même. Alors que cette soirée nous donne ainsi d'entrer plus en avant dans cette œuvre immense et de mesurer à travers cette traduction ce que peut encore aujourd'hui une véritable rencontre entre philosophie, poésie et langue, car les grandes œuvres ne cessent pas de parler, encore faut-il leur rendre une voix. C'est à cette voix retrouvée que nous sommes tous conviés ce soir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Voilà, et nous avons beaucoup d'auditeurs à distance.
Merci beaucoup pour cette présentation de notre trio, enfin plutôt d'un duo. Est-ce que c'est mieux là? Il faut que je l'approche. J'ai l'impression qu'il va vous agresser le visage, alors c'est un peu angoissant. Bon, en fait, c'est surtout une présentation de nous deux autour du travail qu'a fait Laurent Gallois. Donc, je dois dire que c'est un travail extrêmement impressionnant parce que il y a cette traduction, qui est une traduction complètement nouvelle et qui fait sonner le texte de Goethe comme on ne l'avait pas dans la traduction de Malaparte révisée par Bernard Lortolari. Donc ça, c'est un travail de titan. Pour avoir traduit un peu, je ne me serais jamais lancé dans Faust, jamais dans une œuvre littéraire de Goethe, parce que c'est la langue, là, elle se crée au fur et à mesure que Goethe avance et écrit. Il est quand même l'un des fondateurs de la langue allemande telle que nous la connaissons. Et donc là, il y a cette difficulté. D'autre part, c'est écrit en vers et Laurent a fait un choix que je trouve extrêmement judicieux, c'est-à-dire ne pas prétendre faire une traduction en vers. C'est souvent une sorte d'artifice, parce que ça serait une meilleure restitution, mais la restitution n'implique pas qu'on restaure intégralement en étant dans l'imitation. Et je pense que le fait d'avoir traduit en prose introduit un autre écho, une autre musique. Et comme vous l'avez très bien dit, je pense que Laurent Gallois est quelqu'un qui est très sensible à la musicalité interne d'un texte, qu'il s'agisse d'un texte philosophique ou d'un texte littéraire. Donc là, le pari était énorme et il est tellement bien réussi que je pense qu'on lira tous le Faust 1 et qu'on attend le Faust 2. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc je baisse un peu la voix pour ne pas trop vous effaroucher, Laurent, mais je pense qu'effectivement il faudrait appliquer la même méthode au Faust 2. Ensuite, il y a quelque chose qui au début m'a semblé très mystérieux et qui est Faust première partie. Bon, donc ça va, on sait qu'il y en a deux, alors le Faust on s'en occupe moins, mais une traduction philosophique, ça veut dire quoi? Et donc je suis restée assez perplexe devant ce sous-titre en me disant est-ce que ça veut dire que traduire de la philosophie, c'est autre chose que traduire un autre texte? Mais alors à ce moment-là, il faudrait singulariser chaque registre de texte pour que à chaque fois on identifie un type de traduction. Est-ce qu'il y a une typologie des traductions? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par rapport à ce qui est quand même une pièce de théâtre et une écriture poétique, donc ça fait deux registres artistiques différents, même si tout ça tourne autour de l'idée des arts du langage, est-ce qu'il s'agit de faire la philosophie du Faust, ce qui pourrait être une entreprise, je pense, un peu vaine, et qui irait surtout à l'encontre complet des intentions de Goethe, parce que je crois qu'il n'avait aucune envie de faire philosopher le poétique. Il s'est battu toujours avec son ami Schiller en expliquant qu'il ne voulait pas de poésie d'idées, parce que ça ferait de la mauvaise poésie. Donc qu'est-ce que peut être une poésie philosophique? Après, je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, d'envoyer ma pique habituelle contre Heidegger. Donc on est à l'opposé de ce que Heidegger a prétendu faire entre philosophie et poésie. D'ailleurs, comme par hasard, Goethe n'est jamais cité chez Heidegger, ce qui est assez symptomatique, disons. Je passe ensuite, parce que je pourrais m'étendre d'une manière abusive sur le sujet. C'est vrai que quand Laurent a dit une traduction philosophique, je me suis dit, que va-t-il faire? On a ce volume où Laurent rejoint à mon avis, les Cassireurs et autres, c'est-à-dire il faut être philosophe, mais penser avec Goethe. C'est pas parce que Goethe est un grand poète, un grand artiste, etc., qu'on ne pourrait pas philosopher avec Goethe. Et donc il faut dépasser le petit jeu ironique ou auto-ironique que Goethe a fait en disant, en gros, comme Papageno dans la flûte enchantée, là c'est Soho für mich, donc on va quand même pas non plus prétendre être philosophe, et puis de toute façon je n'y comprends rien, ça me casse les pieds. Ce qui est pas vrai du tout, c'est-à-dire qu'il a énormément lu de philosophie, en particulier Kant, puisqu'on a les trois critiques annotées, etc., qu'il a été un lecteur assez remarquable de la critique de la faculté de juger, puisqu'il est le le premier, au fond, à avoir lancé l'hypothèse que la critique de la faculté de juger se comprend à partir de sa deuxième partie. On peut dire la seconde, parce qu'il n'y en a pas de troisième. Le téléologique est souvent apparu dans l'histoire de la philosophie comme étant beaucoup moins important que la critique de la faculté de juger esthétique, puisqu'on a rangé la faculté de juger du côté de l'esthétique, avec cette espèce de malédiction qui est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'esthétique. Donc, puisque là, il y avait ça dans le titre, c'était ça. Et on a laissé le téléologique. Or, Goethe a très bien compris qu'on ne comprendrait la première partie que par la seconde. Et la seconde est farouchement kantienne, et qu'elle fait beaucoup plus, en fait, le lien avec les deux autres critiques que la première. Elle introduit deux pôle essentiel qu'on retrouvera dans le Faust, la nature et la vie. Il y a ce fameux paragraphe 65 que je ne peux jamais m'empêcher de citer, et où il explique que c'est pas simplement comparer l'art et la nature, c'est la nature, la vie et l'art, et que la vie est au cœur de ça. Donc c'est là où les choses se jouent. Et j'ai remarqué que dans la construction du travail que Laurent fait autour de ce texte, vous avez une place très très forte accordée à la nature, puisque l'un des guides, c'est la métamorphose des plantes de Goethe, et que la question de la vie est absolument centrale, puisque c'est autour de la vie que se joue l'articulation que l'esthétique essaye toujours de remettre en avant entre le sensible, avec ce qu'il a de sensation et de perception, l'intellectuel et le spirituel. C'est-à-dire qu'on joue sur toutes les cordes du gemüt, et que l'âme vient là prendre un certain nombre d'assises du côté du sensible, mais navigue entre dans un jeu d'orientation des orientations entre le haut et le bas, ce qu'il peut y avoir de souterrain et ce qu'il peut y avoir de célestial, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça très très frappant. Après, on s'était demandé quel titre donner à cette présentation du travail, pour ne pas reprendre le titre de l'ouvrage, et en fait, on s'était dit avec Laurent que qu'est-ce que Faust nous fait aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partir plutôt de ça. On peut revenir sur ce que je viens de dire et qui est trop rapide, mais on y reviendra. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes encore dans ce qui a nourri la mythologie du Faust, c'est-à-dire la question du pacte faustien? Est-ce que c'est ça qui nous préoccupe quand on aborde ce texte aujourd'hui, ou est-ce que nous ne sommes plus dans le problème du pacte faustien? Alors, je pense que ça n'est pas vraiment dans cette version un peu non pas dionysiaque, mais dionysiste, que nous lisons le Faust maintenant. On n'est plus dans cette idée d'un affrontement de Faust avec Dieu, le diable. Je ne crois pas que c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à lire ça, parce que Faust n'est pas Don Giovanni. Donc il n'est pas à provoquer les cieux et à rester dans cette provocation. Au fond, Faust ne provoque pas. Il me semble que c'est très important de voir ça comme ça. D'ailleurs, quand le Faust 1 commence, il n'est pas du tout dans l'ivresse. Il est au contraire dans une sorte de tedium vitae. Plus rien ne va. On pourrait dire que si on faisait de la psychiatrie, qu'il est dans une phase mélancolique et un peu dépressive. Au fond, il a tout fait, plus rien ne l'intéresse, et qu'est-ce qu'il y aurait après? Donc on est très très loin de ce qui a nourri aussi ce problème germanique de s'identifier à Faust comme un héros. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas le problème, à mon avis, aujourd'hui. Hein, c'est la question de son audace qui est celle effectivement du Don Juan et du Don Giovanni Mozartien, cette manière de vouloir renverser l'état des choses. Ça n'est pas en ce moment ce qui nous éblouit, Et je pense qu'il ne faudrait pas non plus voir dans Faust, dans notre intérêt pour Faust, quelque chose qui aurait à voir avec cette espèce de, j'allais être très méchante, mais cette espèce de mélasse apocalyptique dans laquelle on essaye de nous entretenir, parce que il n'y a pas non plus de rapport à quelque chose d'apocalyptique. Le pacte, c'est une sorte de partie de lui-même qui essaye de voir ce qu'il pourrait maintenant faire, puisqu'il a déjà tout fait ou presque tout fait, et que le reste ne l'intéresse plus vraiment vraiment beaucoup. Et en même temps, puisqu'il est comme ça dans ce tedium vitae, je pense qu'on n'a plus ce qui serait le revers, l'admiration pour ce courage d'oser aller faire un pacte avec le diable. On n'est plus dans cette admiration là. En revanche, on le voit dans son humanité. Je crois qu'il nous apparaît comme beaucoup plus humain, et c'est pour ça qu'il faut le reprendre, le relire. Je crois qu'on est beaucoup plus sensible aujourd'hui peut-être à ce côté insatisfaction qui l'envahit, et à quelque chose qui en fait nous renvoie à l'angoisse de la fin de l'espérance. C'est comme s'il avait déjà usé tous les chemins et il ne peut plus continuer. Après, en continuant dans le « pour nous » par lequel j'ai commencé, je crois aussi que s'il faut continuer à faire des comparaisons légèrement opératiques, Faust est beaucoup plus près de Parsifal que de Don Giovanni. C'est-à-dire, en fait, lui, il a beaucoup connu, alors que Parsifal passe son temps à répéter « Ich weiß es nicht », je ne sais pas. Lui, il a l'air de savoir, mais ce qu'il sait, en fait, ça ne lui sert à rien. Ça ne lui sert pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Il a du savoir, il a des connaissances, et ça c'est quelque chose qui nous mine tous, et il ne voit pas comment transformer ce savoir, ces savoirs qu'il maîtrise, en quelque chose qui soit une expérience avec toute la déclinaison que la pensée allemande a faite entre ce qui est l'expérience vécue, l'Erlebnis, l'acquisition d'une expérience comme Erfahrung, c'est-à-dire un mode de connaissance de ses propres savoirs qui permet d'en tirer quelque chose personnellement, et il n'y a pas non plus la dimension de l'expérimentation. Alors, par rapport à tout ça, puisque nous sommes dans une pièce de théâtre et qu'il y a d'autres personnages, il y a un personnage qui me paraît central, c'est Marguerite. On a eu tendance à considérer que, au fond, cette jeune fille toute simple ne comprenait pas grand-chose à ce qui pouvait arriver, qu'elle s'emballait pour cet être qui lui paraissait inaccessible et qui était Faust, et qu'elle ne... Elle était une victime, au mieux une victime, éventuellement consentante, donc à ce moment-là moins intéressante comme victime, mais que c'était entre Méphisto et Faust que ça se jouait. Je pense à l'avoir relu grâce à Laurent que elle est en fait un personnage central, et je ne fais pas ça par féminisme. Plus ou moins bien placée. Elle est un personnage central parce que elle est la figure de l'amour. Et en fait, ce qui manque à Faust, c'est ça. C'est-à-dire, il a connu tous les désirs du monde, mais il les a épuisés. Donc la question du plaisir n'est pas la sienne. Et il n'a jamais connu vraiment l'amour. Et elle arrive. On pourrait penser qu'elle est une marionnette dans les mains de Méphisto, mais elle l'est pas du tout. D'ailleurs, elle lui échappe, en fait. Je pense qu'elle n'est pas du tout en son pouvoir. Et elle connaît pour la première fois quelque chose qu'elle a pratiqué avec sa famille, avec etc. C'est-à-dire quelque chose où elle est dans un amour qui est à la fois charnel et spirituel et qui est éminemment sensible. Elle est un personnage qui est dans le registre de l'esthétique, elle, complètement. Et elle offre des arpèges que Faust n'a jamais connus avec tous les savoirs qu'il a pu accumuler. Donc, parce qu'on retient toujours l'éveil de la pure jeune fille au désir, la faute et sa punition. Mais en fait, c'est elle qui donne à Faust. L'un des problèmes de Faust, son impuissance du début, est lié au fait qu'il ne sait pas donner. Et là, il y a une dimension chez Marguerite qui est qu'elle est don pur. Alors elle lui donne de l'amour, elle finit par lui donner son salut, quitte à en mourir elle-même, quoi. Donc elle est un personnage du don de soi, et donc elle n'est pas du tout une espèce de greluche mièvre et etc. Donc c'est vrai que là, je pense que le Lied am Spinnrad perturbe un peu la compréhension de Marguerite, parce que elle ne fait que l'attendre, elle ne fait que rêver à lui, etc., etc. Donc la musique est superbe, le Lied est magnifique, mais ça ne suffit pas à saisir Marguerite. Marguerite a une profondeur que je trouve bien plus grande. Bon. Et le troisième point, mais je pense qu'après c'est beaucoup de ça qu'il faudrait discuter, c'est donc pour en venir à l'essentiel, c'est-à-dire cette traduction philosophique. Vous dites Laurent que il y a une poétique phénoménologique de la vie. Cette expression, je vous la laisserai l'éclairer vous-même, parce que je ne l'endosse pas, je suis pas toujours sûre de comprendre exactement ce que peut être une poétique, oui, de la vie, mais alors phénoménologique, si je reste goethéenne, c'est que c'est toute l'amplitude du phénomène, parce qu'il n'y a que du phénomène, il n'y a rien derrière, c'est ce qui apparaît avec sa force de lumière, etc. Mais le motif de la vie, c'est à ça que je veux en venir, cette espèce de chemin du vivant vers la vie, avec la dimension spirituelle qui est aussi inhérente à ce terme, je pense que c'est le chemin que vous avez suivi. Et que, alors, est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi de tout relier dans les écrits scientifiques à finalement deux registres, la métamorphose des plantes et la théorie des couleurs, la Farbenlehre. C'est les deux registres dans ces activités scientifiques que vous avez pris en main.
Et en mode très mineur, l'acoustique.
Et alors après, oui, mais ça c'est vous, c'est toujours, il y a quand même un fil musical. Oui, l'acoustique. Mais là, dans l'acoustique, c'est aussi ce thème très très goethéen de la surconcordance. C'est la Übereinstimmung. Il faut, non seulement il faut que les choses concordent, mais il faut qu'elles surconcordent. C'est-à-dire, il faut trouver l'accord. Et cette question de l'accord est aussi centrale dans le rapport des personnages entre eux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils peuvent s'accorder? Finalement, Faust ne s'accorde jamais à Méphisto. Et Méphisto ne comprend rien à Faust, en réalité. Il n'y a pas de concordance. Mais l'apprentissage de la concordance avec Marguerite, là, il existait. Et là, il est musical. D'où le fait que les livres tournent autour de Marguerite, évidemment. Et c'est toujours le propre des personnages féminins chez Goethe, hein. Je veux dire, elle prend sa place avec Mignon, etc. Il y a une ligne des personnages féminins, et bien sûr, après, Ottilie dans les affinités électives. Et c'est toujours autour du motif de la vie que le personnage féminin vient essayer d'installer les liens et donc d'installer ce qui est le propre de la métamorphose des plantes, c'est-à-dire la transformation d'une forme ou d'une gestalt, de passer son temps à la transformer, parce que c'est ça qui l'anime, la vivifie et qui finalement met en mouvement les choses. Et dans la pièce de théâtre, vous avez il y a une immobilité de Faust à la première. Il ne bouge plus. Et après, il y a les mouvements que, alors, Méphisto introduit, mais comme un mauvais thérapeute, et que Marguerite fait vivre dans l'espèce de dialogue des âmes qu'elle réussit à faire. Donc, je pense que d'une certaine manière, votre traduction philosophique est une traduction qui est pleinement esthétique. Parce que vous jouez sur les différents niveaux, et que ça c'est extrêmement important. Et donc en gros, on a la sensibilité, la Sinnlichkeit, le Geist, avec tout son registre spirituel et intellectuel, et on a un opérateur qui met en mouvement tout ça, parce qu'il y a une cinétique toujours chez Goethe, c'est celle des plantes qui poussent et qui déploient quelque chose qu'on ne voyait pas mais qui devient visible parce que là il y a eu jeu de transformation des formes, métamorphose. Et cet opérateur dans le Faust, c'est l'amour. Donc ce que Goethe démontre dans ce texte, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de paradoxal à dire que vous faites une traduction philosophique, puisque les rapports de Goethe à la philosophie sont en le surjouant un peu dans l'ambivalence, c'est qu'il ne fait pas une poésie d'idées. C'est-à-dire que ces trois personnages centraux avancent avec leur voix propre, leur musicalité propre, leur forme. Parce que au début, Faust est vieux, triste, les cheveux gris, tout est terne, etc., etc. Et il redevient un jeune homme, donc il se transforme. Il y a une Gestaltung de la Gestalt et une Umbildung aussi de la Bild. Donc, Marguerite devient quelqu'un qui n'était pas du tout la timide jeune fille. Donc elle aussi, elle se déploie. Donc il y a toujours, il y a un terme qui en allemand, Julia me corrigera, mais je veux dire, il y a ce côté que le développement, le déploiement, c'est l'Entwicklung. Et à l'époque, on emmaillotait encore les enfants, donc il y a quelque chose de du Wickeln. Donc on emmaillote et on désemmaillote. Et c'est comme ça que la forme surgit. Et c'est une métaphore, mais je pense qu'elle dit beaucoup de ce qu'il faut. La forme, elle surgit pas comme ça. Il y a une temporalité qui est essentielle à ça. C'est le temps de la pièce. C'est aussi le temps de la pensée. Et le fait que les personnages de Goethe dans ces pièces de théâtre changent, ils évoluent, ils se transforment. C'était la même chose dans l'Iphigénie en Tauride, et c'est la même chose en Torquatotas, etc. Donc il y a cette espèce de temporalité qui fait aussi que, et ça joue dans les études sur la lumière ou sur les plantes, c'est que on est quasiment dans une cinétique. Il n'y a pas d'image fixe chez Goethe. Les images, elles bougent, elles flottent, elles passent d'une certaine opacité à une véritable transparence, etc. Donc tout est en mouvement, et ça donne une sorte d'apprentissage. Donc c'est un roman de formation. Ça donne un apprentissage toujours plus de présence au monde. Et cette présence au monde, elle est ce qui nourrit la présence à soi et aux autres. Et donc, il y a une dialectique, là je me lance dans un terme hegelien, donc attention, mais il y a quelque chose qui se dialectise et qui nourrit la mise en mouvement et qui fait que le texte de Goethe est profondément animé. Dans tous les sens du terme animation, et c'est ce que votre traduction rend aussi, parce que d'une certaine manière vous simplifiez les choses, vous n'empoulez pas la traduction de Goethe, parce qu'il y a quand même eu une poétisation de cette langue, mais elle sonne, et c'est avec une sorte de simplicité que vous lui faites acquérir, en français du moins, que on rentre dans ce monde et ensuite on bouge avec lui jusqu'à la fin. Voilà. Bon, je pense que pour le moment j'ai assez parlé. Je voudrais mieux qu'on discute ensemble et que peut-être Julia dise aussi ce qu'elle voulait dire, et après on complétera. Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, ça j'attends l'explication.
Ça marche. Bon, j'aurais des choses à répondre à ce que vous avez dit, mais bon, on va faire ça dans un deuxième temps. Donc, je vais peut-être d'abord. Vous voulez que je réponde?
Comme vous voulez.
Non, je vais d'abord dire ce que je voulais dire sur le livre, et puis on entre peut-être dans une discussion. Moi aussi, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cette discussion. Je pense que Laurent m'y a convié puisque maintenant c'est trop loin. Non, bon, de toute façon, je vais bouger. Hein. Je suis très faustienne sur ce thème. Donc, vous garantis pas que je reste fixe. Donc, je pense que Laurent m'y a convié puisqu'on s'est presque connu sur une discussion, dans une discussion sur le Faust, puisque je me suis plainte que bon, en France, on lit pas le Faust, hein, et je comprends, en même temps, les traductions sont quand même très bizarres et personne n'arrive à rendre la langue du Faust. Bon, je fais toute une litanie. Et donc, il me disait à cette occasion qu'il est en train de le traduire. Et je me réjouissais beaucoup parce que je me suis dit peut-être enfin je trouverai une traduction qui satisfait mon désir d'entendre cette pièce que je lis, mon Dieu, depuis l'âge de 13 ans, que je connais presque par cœur. C'est exagéré, hein, mais dont je connais des parties par cœur, enfin de l'entendre en français. Donc je suis très heureuse effectivement de pouvoir en discuter. Je dois vous dire, personnellement, je l'entendrai jamais dans une autre langue que l'allemand. Je pense effectivement qu'aucune traduction ne pourra jamais satisfaire ce que vous dites d'ailleurs dans la traduction, dans la partie qui parle des traductions en français, que c'est une langue que cet allemand-là est très difficile à transposer, déjà parce que la versification elle n'existe nulle part dans aucune autre langue. Peut-être l'anglais pour y arriver, je suis pas sûre, mais en tout cas le français n'a pas les moyens. On risque de vouloir rimer, mais quand on rime, on perd tout, donc on repasse à la prose. Mais moi, j'entends plus le rime, donc à ce niveau-là, je n'ai pas entièrement retrouvé la musique du Faust. En revanche, j'ai beaucoup apprécié la traduction, parce que ce que je retrouve, c'est la voix de Goethe. Je retrouve le souffle, de fait. Donc, vous avez réussi à traduire le souffle de Goethe, ce qui est quand même, je trouve, un exploit absolument remarquable. Je retrouve la clarté. C'est quand même un allemand qui n'est pas ampoulé, vraiment pas. C'est ce qui distingue toujours à mes yeux Schiller de Goethe, parce que Schiller, il a quand même une petite tendance au lyrisme, ce qui n'est pas une tendance goethéienne du tout, de fait. Je retrouve le caractère direct des énoncés. Donc là aussi vous cachez pas du tout que le Faust il peut aller à trois au but, pas le personnage hein, mais le langage du Faust peut aller droit au but, hein, il y a pas besoin puisque c'est une grande œuvre littéraire hein, d'en rajouter. Mais surtout j'ai enfin trouvé le plaisir de le lire en français. Donc merci beaucoup pour cette traduction. Évidemment, c'est une traduction philosophique. Je suis entièrement d'accord avec Daniel que traduire le Faust, j'aurais pas osé. Et d'ailleurs, je réfléchis, c'est la seule œuvre de l'allemand que Jean-Pierre Lefebvre n'a pas osé traduire. Non, mais il faut se représenter cela. C'est aujourd'hui que je me sais, ça m'a frappé. Effectivement, il a tout traduit ce qui relève de l'allemand intraduisible, à vrai dire, hein, les plus compliqués. Il n'a pas osé toucher au Faust. Je vais lui poser la question la prochaine fois quand je le vois, pourquoi il n'a pas fait ça. Non, mais c'est une vraie question. J'aimerais bien savoir, hein, parce que c'est un grand connaisseur de Goethe, c'est un grand connaisseur de toute cette époque, donc il doit y avoir une raison pour laquelle il n'y a pas touché. En tout cas, je comprends l'extrême réticence qu'on peut avoir de vouloir traduire le Faust. Maintenant, c'est pas juste une traduction. Je sais pas si tout le monde a pu les lire. J'ai amené l'édition allemande du Faust parce que quand je préparais cet exposé, mon conjoint me dit, parce que je dis, il faut que je lise maintenant le Faust, hein, me dit, mais pourquoi tu veux le relire? Tu le connais par cœur. C'est quoi? Je dis, moi, ce que je connais par cœur, c'est le Faust. C'est ça. Et ce que Laurent a fait, c'est ça. C'est pas tout à fait le même volume. Donc, il y a une grande partie du travail accompli qui consiste dans une, Ganyen l'a déjà évoqué, dans une très longue, moi je vais dire dans un livre, hein, je dis excusez-moi, c'est plus une introduction. Dans un livre qui situe, de fait, le Faust, c'est-à-dire mais la pensée de Goethe en général, dans le contexte philosophique de son temps. Moi, je dois dire que j'ai énormément appris de cette contextualisation. Je me suis jamais vraiment intéressée aux lectures philosophiques de Goethe. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas une présentation en général de Kant, de Schiller, de Hegel en partie. C'est une traversée de cette philosophie, j'ai eu l'impression, à travers les yeux de Goethe. le fait. Qu'est-ce que Goethe il a rencontré dans cet idéalisme allemand qui est en plein essor? Et j'ai l'impression, surtout les longues pages que vous consacrez au rapport entre Schiller et Kant, avec toute la contradiction que Daniel vient d'évoquer, effectivement que Goethe, il voulait jamais voir une poésie de l'esprit, alors que Schiller est un grand lecteur de Kant et entretenu une correspondance avec Kant, et en faisait, pour ainsi dire, son héros intellectuel et son modèle. Goethe, il n'a pas voulu de cette philosophie dans sa poésie, disons ça comme ça, ni dans sa vie, je pense, à vrai dire. C'est pas juste une question de considérer que la philosophie kantienne empêchait la poésie de se déployer. Je pense que ça a quelque chose à voir avec le rapport de Goethe à sa vie, et c'est effectivement votre présentation qui me l'a fait percevoir mieux que chez Goethe, il y a quelque chose d'un abandon à la vie, à la nature, et c'est notamment vos longs développements sur les métamorphoses des plantes dans l'œuvre goethéenne qui m'a fait entrevoir ça. Il y a quelque chose comme une rupture chez Goethe avec cette dureté que j'aurais tendance, peut-être avec du faux féminisme, moi de mon côté, d'appeler virile. Une sorte de dureté virile, mais en même temps ça rejoint peut-être ce que vous avez dit sur Marguerite, hein, de rupture entre esprit et nature, entre esprit et vie, une volonté d'imposer l'esprit à la vie ou à la nature qui se déploie. Et j'avoue que ça m'a beaucoup éclairé sur le début du Faust et ce renoncement au savoir. Parce que ce qu'on voit effectivement dans le Faust, c'est le côté il renonce au savoir, il dit qu'il a compris qu'on ne peut rien savoir. Mais si on regarde de plus près les savoirs qu'il énumère, ce sont des savoirs dogmatiques. Donc c'est à quoi il renonce de fait? Il renonce à l'imposition d'un savoir sur la vie ou sur la nature, parce que c'est ça ce qui lui rapporte strictement rien. Donc, dans un premier temps, si on lit le Faust maintenant à partir de ce prisme que vous mettez en place dans votre livre, dans le livre, dans votre introduction, on a quand même l'impression, ou on se perçoit que c'est une décision, ce renoncement au savoir dogmatique est aussi un renoncement à une certaine forme de maîtrise. Qui, pour citer Hegel, et je pense que c'est pour ça qu'il s'entendait quand même beaucoup mieux avec Hegel qu'avec Kant, Hegel, il dit à un moment donné des conscients ou des philosophes idéalistes qui sont seulement au-dessus des choses parce qu'ils ne sont pas dans les choses. Et chez Goethe, on a l'impression que c'est le même geste, de ne pas vouloir être au-dessus de la réalité juste parce qu'on n'ose pas y toucher. Donc il y a un renoncement à la maîtrise par l'esprit ou par le système, et dans le même temps, c'est contradictoire, puisque tout le Faust n'est quand même, on peut le lire aussi comme une sorte de variation du terme de la maîtrise. En tout cas, c'est pas une lecture impossible. Maîtrise sur une réalité relativement peu étendue qui est cette vie privée avec cette femme dont il fait quand même ce qu'il veut, même si l'on est touché et transformé par cette femme, mais il y a quand même maîtrise sur elle. Et puis dans le second Faust, carrément un passage à la domination de la nature. Donc ça c'est quand même le terme de la domination de la nature dans le second Faust, même si ça se résout à la fin, hein, c'est pas la question, mais c'est quand même l'entreprise faustienne, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit qu'une entreprise est faustienne, c'est pas juste le pape qui est faustien, hein, donc il y a aussi cette prétention de dominer le monde, hein, je dis pas politiquement, hein, mais soit par le savoir, soit par l'acte, qui est quand même aussi inscrit dans le Faust. Donc, moi, j'ai eu l'impression que grâce à votre inscription de l'œuvre et de la pensée de Goethe dans les débats philosophiques de son temps, on voit aussi pourquoi, à vrai dire, ces tentatives de domination sont vouées à l'échec. C'est ça ce qui ça m'a apporté, que effectivement, il y a comme si Goethe avait pris un savoir de l'échec inscrit dans la maîtrise, hein, de son opposition à la philosophie de son temps, opposition qui, à mes yeux, effectivement, mais là, je ne fais que rejoindre votre propre position sur Goethe, hein, que rejoint à ce niveau-là Hegel, parce que la phénoménologie de l'esprit, là aussi, l'esprit, il parcourt un chemin d'échec, il va d'échec en échec, de fait, hein, pour arriver à la fin à une connaissance de soi qui n'est plus un échec. Mais bon, ça fait, là aussi, ça fait quand même 500 pages d'errance, hein, d'échec, et à vrai dire, quelque chose de tragique. Et il me semble que, en tout cas, avoir traversé le parcours que vous nous faites traverser, qu'il y a quelque chose de... que cet échec est motivé en partie, peut-être pas en partie, par une mécompréhension du rapport de l'esprit à la vie, qui trouve sa source dans une idée de la souveraineté humaine. De la souveraineté humaine, mais telle qu'est, et je vais passer à ce point de ma lecture par la suite, qui est propre à l'homme moderne. Que nous fait Faust aujourd'hui ? Moi aussi, évidemment, je me suis posé la question, mais je voulais juste dire un mot d'abord sur le statut du livre, comment je le prends quand je dis que Faust nous fait aujourd'hui. Vous citez à un moment donné le très joli passage, enfin, joli, hein, très profond passage, à vrai dire, quand Goethe dit qu'est-ce que c'est que l'universel. Et la réponse, elle est le cas singulier. Pour moi, Faust est un cas singulier. L'ouvrage, hein, pas le personnage historique, mais l'ouvrage tel que Goethe l'a fait, l'œuvre de Goethe, pour la très simple raison que je pense effectivement que ce qui est mis en scène ici, c'est l'homme moderne tel qu'il est, les problèmes qu'il rencontre encore aujourd'hui. Ça trait à la position de la modernité, de l'individu dans la modernité, et donc ça n'a pas changé entre la fin du 19e siècle, ou non, le début du 18e siècle, et aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que c'est le Faust qui a été le thème d'une partie, en tout cas, de l'Allemagne, de la littérature allemande post-45. Pas du tout à cause du côté faustien du pacte, hein, ou de l'énergie criminelle du personnage, mais parce qu'il y a quelque chose, la contradiction même de la modernité, de l'individu moderne qui est posée dans le Faust. Et c'est ce point-là sur lequel je voulais un peu plus insister. Donc, pour moi, universalité du Faust, hein, tel que Goethe l'expose, hein, pas la légende antique, mais la production de Goethe pour la modernité. Et j'ai même pas pensé, et ça montre à quel point vous avez raison, j'ai même pas pensé au pacte faustien. Non, c'est vrai, pour la question que Faust nous fait aujourd'hui, je n'ai même pas pensé à cette histoire du pacte avec le diable, comme si ça avait encore une validité, pour un intérêt quelconque pour nous. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'est le thème, à vrai dire, qui m'intéresse dans le Faust, qui me fait dire que c'est une sorte de cas singulier de la modernité, c'est la traduction de l'évangile de Jean, quand Goethe fait traduire Faust, trouver la traduction qui lui convient, qui est « au commencement était l'acte ». Et pour moi, c'est ça le Faust, tout le problème des Faust qui le traverse, hein, d'ailleurs jusqu'au second Faust, et cette idée qui ne peut être l'idée que d'un être humain moderne de commencer, de dire « au commencement était l'acte ». L'acte, c'est évidemment l'acte de l'homme. Hein. C'est pas au commencement était la création. C'est l'acte. C'est la tat. Dieu ne commet pas de tat. Ça n'a aucun sens en allemand. Hein. Je dis, ça ne peut être que l'homme qui fait ça. Ce qu'il pose là est que, effectivement, la position de l'homme moderne et sa mélancolie, je pense, est liée aussi à ça. L'impuissance du début est aussi liée à ça, qu'il se rend compte qu'il doit poser les lois de son action lui-même. Et effectivement, il vit dans un monde où il n'y a plus de transcendance légitimante de ses actions. Donc, au commencement était l'acte, me semble être effectivement le problème du sujet moderne. Et ça nous renvoie à Kant, qui est quand même celui qui a le mieux élaboré et posé le problème de l'autonomie de l'homme moderne, avec une solution qu'il trouve où il réintroduit la transcendance, mais à vrai dire, cette transcendance, et Fichte notamment, a quand même mis ça à nu, pour ainsi dire, cette transcendance n'a pas la nécessité que Kant lui accorde. On ne peut pas prouver, disons. L'homme moderne n'a pas plus de raison de croire dans le ciel étoilé au-dessus de lui qu'il n'a de croire en Dieu. C'est cette radicalité-là qui est exposée quand Faust, il dit, au commencement était l'acte. Donc, pour l'acte, donc pour la tat, qui en allemand est un mot criminel, je dis criminel, en tout cas, c'est le mot qu'on emploie pour désigner un acte criminel, c'est pas le parcours criminel de Faust qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse dans le Faust encore aujourd'hui, c'est l'inévitabilité de cette condition de l'homme moderne. Et je pense que c'est pour ça qu'il a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, ce texte. C'est pas le problème du personnage Faust qu'il doit faire avec l'absence de ses lois qui légitiment et d'un savoir dogmatique qui pourra encore lui dire comment agir. C'est effectivement quelque chose qui relève d'une société qui se construit depuis une autolégislation souveraine. Donc à partir du moment où nous sommes dans des sociétés qui pensent leur agir politique depuis la position des lois que la société ou le peuple fait lui-même, les individus de cette société n'échappent pas à ce problème de la position, des règles d'agir, de la position de soi-même propre dans sa vie. C'est comme si, et j'ai l'impression que ce que Goethe y met en scène, c'est comme si l'homme moderne ne pouvait pas ne pas courir le risque de la position, de l'acte. Il doit poser un acte. Et de ce fait, ne pouvait pas ne pas courir le risque de tomber dans l'hybris de la position et de détruire, de fait, le monde qui est déjà là. Autrement dit, détruire tout ce qui s'oppose à sa volonté, à son désir, à ce qu'il veut, effectivement, à la réalité qu'il imagine et qu'il veut réaliser. Faust est un bâtisseur, surtout dans le second Faust, ce qu'il fait, c'est un créateur de monde, et avec ça, un immense destructeur du monde déjà là. Pour moi, mais peut-être je tire le Faust trop du côté de la politique, parce que c'est quand même encore une histoire personnelle à ce niveau-là, mais je trouve quand même qu'il pose, à vrai dire, le concentré du problème de la politique moderne, certes, effectivement, au niveau individuel, pour la première partie, mais qu'est-ce que Faust autre qu'un individu socialisé dans ces sociétés modernes qui exigent la position ? D'elle-même, pas de tous les individus, mais d'elle-même, elle exige la position des lois, elle exige qu'il n'y ait plus d'autres instances qui légitiment l'action qu'une instance humaine, et Faust, c'est effectivement l'homme qui réalise cette exigence avec le... Et ça, c'est une critique, et je le dis donc, une vraie question, à vrai dire. Faust, première partie. Autant que je sache, le titre en allemand est Faust, première partie de la tragédie. Vous avez supprimé la tragédie dans votre... pour moi, c'est une vraie question, parce que ce point de l'hybris inévitable de ce processus, on ne peut pas ne pas poser, et dans le même temps, toute position est une négation. Et donc, on risque de détruire le monde qu'on essaie de poser. C'est effectivement un mouvement éminemment tragique, et peut-être, de fait, c'est la seule tragédie qui a été, là, je vous regarde, qui a été véritablement écrite de la modernité. Où on a un vrai sens du tragique, presque du destin de l'homme moderne. Il ne peut pas y échapper à ce problème-là. En tout cas, c'est pas une pathologie personnelle qui est exposée dans le Faust. C'est pas lui qui est poussé par cette hybris faustienne. ça me semble effectivement la tentation de l'hybris qui est inscrite dans la modernité elle-même et dans les individus que nous produisons. Je vais clore sur ce point. J'aurais tendance à penser que Freud l'a vu. Quand Freud, il dit dans Totem et Tabou, au commencement était l'acte, finit au Totem et Tabou avec au commencement était l'acte, c'est une citation directe du Faust, hein, lui, un tel grand lecteur de Goethe, qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est quand même un livre, même si c'est un livre qui prétend, qui écrit une histoire longue de l'humanité d'un point de vue psychanalytique, mais bon, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quand même la psychopathologie individuelle. C'est plus la psychopathologie des peuples à cet endroit-là. Il parle des grands obsessionnels qui n'arrivent pas à sortir leur propre culpabilité. Et c'est à travers ce mouvement-là qu'il en arrive à dire au commencement était l'acte. Comme si, effectivement, il avait bien compris que le problème des individus modernes, y compris au début du XXe siècle, et cette question de l'acte, qu'il soit imaginaire ou réel. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas échapper à cette injonction à agir sans loi transcendante qui leur sera imposée. Voilà ce que j'ai vu pour la première fois, à vrai dire, dans le Faust, grâce à votre insertion de l'ouvrage dans la philosophie de son temps. J'aurais une question, mais qui peut avoir une réponse philologique, à vrai dire, et peut-être je me concentre trop sur la question de l'acte. Pourquoi pas Fichte? Dans tout le parcours philosophique que vous présentez, j'aurais instinctivement eu l'impression que c'est lui qui dit « moi égale moi » et qui appelle ça « Tathandlung ». C'est quand même notre ami Fichte. Et je pense quand même la doctrine de la science, la première édition, c'est 1792-14. Donc c'est avant le Faust. Et je j'avais toujours l'impression que c'était Fichte dans sa folie qui a vraiment traumatisé à l'extrême ce problème du sujet autonome que Kant nous a légué et autour duquel tourne, à vrai dire, tout l'idéalisme allemand, qu'il soit fichtien ou plus tard hegelien. Hegel arrive à résoudre le problème, hein, donc ça vous angoisse. Mais pourquoi pas Fichte? Est-ce qu'il apparaît pas du tout dans la pensée de Goethe? Est-ce que c'est... Pourquoi cet absent?
Mais en revanche, il veut bien de Fichte.
Il suit Fichte, oui. Oui, il le suit.
D'accord.
Ça, oui.
Mais qui veut Shelley?
Ça, c'est une question que je laisse au souligner. Mais je pense qu'il y a dans ce que vous avez dit, oui, alors vous avez joué sur Dictat et Der Täter,
qui est l'assassin, quoi, en fait. Oui, moi, je pense que par rapport au travail que fait Laurent, de faire ce Faust. Alors effectivement, première partie, mais c'est parce qu'il va faire le suivant, je pense pas. Mais je pense que c'est lié à votre travail sur le mal radical, à mon avis. C'est-à-dire que la figure de Faust pose la question du mal radical, et c'est une question que vous avez abordée dans votre traduction aussi. Donc il y a un lien. Et le mal radical, il existe parce qu'il y a la liberté. Donc on est toujours dans ce problème-là. C'est-à-dire l'acquis de la liberté produit le problème du mal radical et notre responsabilité. Donc effectivement, si nous sommes tous des assassins, si notre destin c'est qu'au départ il y a dictat, et que donc la possibilité que nous devenions des assassins est en quelque sorte inclus dans le alors le Faust, nous en avons un ardent besoin aujourd'hui, parce qu'on est une fois de plus confronté à du mal radical. Je pense que, et ça c'est vrai qu'il y a dans la façon dont le système fichtéen reprend Kant et le déploie avec une sorte d'intensification absolu, oui, c'est ça, mais et donc un peu tragique, alors que Kant évacue le tragique, ne se pose pas cette question-là. Il y a un fil là, mais c'est vrai que tout ce que vous avez dit est vraiment important, etc. Mais ça implique qu'on est, en lisant le Faust 1, on est le Faust 2 dans la tête.
Oui.
Et ça, c'est peut-être votre formation.
Non, mais
vous avez, toujours lu tout faux.
Absolument pas. Hein, je m'aime pas, franchement. Je cale hein, sur le fausse deux. Il faut. Moi, je suis tout à fait honnête. Hein, c'est illisible pour moi. non, c'est plutôt la question freudienne.
La question freudienne.
C'est plutôt la question du au commencement était l'acte.
Oui, d'accord.
Parce que ça, c'est le fausse un. Et c'est comme ça qu'il se sort de sa dépression. Oui.
C'est ça.
Parce qu'il est quand même, il rentre de sa promenade de Pâques, là, il est dans sa chambre, il est légèrement gay, hein, mais bon, ça va pas durer longtemps, donc il se dit, je vais traduire le Nouveau Testament pour retrouver, effectivement, la voix de Dieu. Et dans ce geste de retrouver Dieu, il le supprime. Il met, au commencement, était l'acte. Pour moi, la radicalité de tout le Faust, hein, que ce soit le premier, et dans cette phrase-là. Mais en même temps, vous avez entièrement raison, je le lis comme ça aussi, parce qu'il y a une résonance politique qui n'est pas la quête de l'absolu, mais qui est cette nécessité de la position de sa loi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous retrouvons aujourd'hui, d'une non-régulation de cette hybris-là de la position.
Oui, mais quand il fait sa promenade de Pâques et qu'il y a ce vers fameux, vom Eis befreit, etc., ce rapport à la nature qui éclot de nouveau, donc la métamorphose des plantes, elles sortent de leur sommeil, et la prairie redevient verte, etc., y a ça, et alors ça va nous donner quoi avec cette nature qui se réveille? On va devenir des assassins?
On va se rendre compte qu'on n'est pas de la nature, on n'éclot pas, on agit.
Voilà, c'est ça.
Je pense que c'est ça ce que ça nous donne.
Oui, mais donc là, ce sont des problèmes qui nous sont posés directement encore aujourd'hui.
Tout à fait.
On est exactement encore là-dedans.
Je pense.
Ce que vous avez indiqué au commencement était l'acte, effectivement, et ça rejoint l'intuition que souligne Daniel, c'est au fond. Même si ça n'est pas abordé explicitement dans le Faust, première partie de la tragédie, on affleure à la question du mal radical. Hein. Et du coup, je crois que cette question-là, elle trouve son développement dans la deuxième partie, en particulier. Dans chacune des scènes, voilà, la première scène avec l'empereur, tout ce qui touche à la transformation, l'acte 3 avec, je dirais, Hélène et les illusions. Donc, ça se développe dans la deuxième partie. Alors, je voudrais revenir sur traduction philosophique. Étant entendu ce que Goethe écrit lui-même sur les rapports entre philosophie et poésie, je m'exposais quand même. Bon. Alors pourquoi philosophique? Peut-être que ça n'a aucun rapport avec le travail que j'ai fait, mais il se trouve que j'ai donné deux fois de suite un séminaire Goethe-Hegel, et il y avait une dynamique qui démarrait chez les étudiants absolument impressionnante en lisant Goethe. Et la plupart n'avaient jamais lu Goethe. Donc ils découvraient Goethe. Voilà. En passant, évidemment, par des extraits de la métamorphose des plantes, la théorie des couleurs, et puis quelques extraits aussi de Wilhelm Meister. Parce que le phénomène de métamorphose aussi est à l'œuvre dans Wilhelm Meister. Bon. Alors c'était sortir un mouvement qui était pris, et puis le passage à Hegel était une sorte de douche froide. Alors, ça s'essoufflait, puis il fallait relancer la machine, et là, ça a été beaucoup plus difficile. Bon. Et du fait, j'étais très gêné par les traductions. Je n'aime pas critiquer les traductions qui existent. Donc, j'étais gêné, donc j'ai refait beaucoup de traductions pour le séminaire. Voilà. Et il y avait autre chose qui se passait, qui renforçait. Alors, traduction philosophique, ou poétique, je ne sais plus comment c'est la formulation, phénoménologie poétique de la vie. C'est sans doute le souci, en traduisant parcourant, parce que c'est une immersion, hein. On a de plonger dans l'allemand du Faust, hein, pour un Français. C'était de me rendre compte que le champ lexical de la métamorphose des plantes était présent, que le champ lexical de l'acoustique était présent, que le champ lexical de la théorie des couleurs était présent, et que ça, je dirais, c'était présent très souvent. Voilà. Alors du coup, s'il y a quelque chose de philosophique là-dedans, c'est certainement pas pour dégager une idée de ce que Faust nous donnerait de je ne sais de la pensée, non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt montrer que cette œuvre éminemment poétique, cette tragédie, c'est une tragédie, c'est vrai, elle est habitée par tout le travail de Goethe dans d'autres domaines. Voilà. Et qu'il y a une sorte d'unité qui se produit, qui restera invisible si on se limite au texte de Faust, mais qui va vraiment, pour le coup, se phénoménaliser, hein, par une poétique, et qui est une poétique de la vie. Voilà. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu dire, c'est-à-dire c'est une des rares, je ne l'ai pas ouvert depuis que je l'ai reçu le 10 septembre, donc je l'ai ouvert aujourd'hui. Je dirais la partie la tragédie est, je le mets avec de gros guillemets, hein, c'est ce qui fait venir dans une forme d'apparaître ce qui est travaillé par Goethe du côté des métamorphoses, des plantes, et il nous épargne la note de bas de page du style « Voyez, mesdames et messieurs, comme ma pensée, philosophie de la nature, est présente dans mon Faust. » Ce n'est pas les créations de l'ancien directeur de l'Odéon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ça le philosophique. Au fond, il est davantage dans... Moi, la philosophie me fait vivre. Hein. Davantage dans une manière de lire, dans un acte de lecture, que dans une production. Et à partir de tout ce que vous avez dit, parce que je suis vraiment en accord avec ce que Daniel et vous dites, c'est-à-dire que je suis absolument pas gêné par les ouvertures politiques, bien au contraire. Je veux dire, faut pas oublier quand même que Goethe était ministre d'État, hein, après tout, et que la manière dont il s'est joué du grand Napoléon, moi ça m'amuse beaucoup, hein. Napoléon qui le convoque, qui veut lui faire la leçon, et puis il s'est retrouvé comme petit garçon devant Goethe, hein. Donc ça me plaît beaucoup, ça. Donc au sens où il y a vraiment une pensée politique dans le Faust, la première partie qui n'apparaît pas, mais qui apparaît sûrement dans la deuxième partie, ça c'est clair. Alors l'acte, et c'est très bien de l'avoir souligné parce que ça me fait encore plus comprendre ce que j'ai voulu faire. Au commencement était l'acte. Ça rejoint, me semble-t-il, alors vous me direz, hein, peut-être que je dis une nannerie, ça me rejoint toutes la préoccupation que Goethe pouvait avoir sur le rapport entre l'ancien et le moderne. Or, s'il y en a un pour qui l'acte est quand même central, c'est Aristote, hein. Et on n'est pas gêné quand on lit tout ce qui, je dirais, l'énergéia chez Aristote, parce que c'est la clé une des clés de sa métaphysique, entre autres, comme de sa poétique aussi. Donc derrière, il y a aussi faire vivre et l'ancien et le moderne dans une sorte de synthèse qui n'est absolument pas possible si on veut l'expliciter dans un discours. Je ne sais pas si...
Après, ce que vous avez fait, c'est replacer dans une tradition cassirérienne, replacer Goethe dans l'histoire de la philosophie aussi, parce que c'est une chose qui est plus simple à faire en Allemagne, parce que la référence à Goethe est constante et que tout le monde, tous les gens qui ont suivi une éducation secondaire, bien sûr après universitaire, ont la tête pleine de passages de Goethe, de citations de Goethe, etc., etc. Mais nous, on a exclu complètement Goethe du champ de la philosophie. Enfin, je sais que quand c'est complètement anecdotique, mais quand j'ai voulu travailler sur Goethe, on m'a dit, enfin, pourquoi tu fais pas quelque chose sur Kant? J'ai dit, mais de toute façon, en travaillant sur Goethe, je suis aussi dans Kant. Et on m'a dit, oui, enfin bon, c'est pas un philosophe. Et dans la domination en France de l'histoire de la philosophie sur la philosophie, à partir du moment où vous n'êtes pas dans le catalogue de la liste, donc Goethe est exclu de ça. Or, effectivement, ce que vous faites, c'est ça, le texte de Cassirer, Rousseau, Goethe, Kant, c'est bien ça. On est là, c'est-à-dire à ce moment, au début du XXe siècle, où Goethe a pleinement sa part dans quelque chose que les Français appelleraient peut-être avec mépris l'histoire des idées, mais qui est pleinement une part philosophique dans l'histoire de la philosophie. Après, oui, bien sûr, parce que Goethe, il est plus formé par Aristote et Leibniz au départ que par Kant, mais après, il a Kant devant lui. Donc, c'est sa statue à lui du commandeur et il faut qu'il fasse avec. Peut-être c'est pour ça après qu'il trouve son salut chez Hegel, parce que ça le libère un peu de cette austérité kantienne, parce que le monde kantien est un monde assez vide. D'accord, il y a le ciel étoilé, mais il faut tout le temps lever les yeux. Autrement, la Terre est un peu vide avec Kant. Et ça se voit dans sa critique de la faculté de juger, c'est vrai. Il y a très peu de matière. Il y a un peu les arabesques, les rinceaux, un peu d'oiseaux, etc. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui renvoie à la nature. Mais il y a en revanche une pensée de la nature qui est très forte et que Goethe adopte complètement. C'est-à-dire une finalité sans finalisme. Et ça, c'est très... Goethe est très auprès de ça dans son rapport à la nature.
Moi, je crois que du temps de Kant, il y avait deux grands kantiens. Ça va peut-être vous faire bondir. Je pense que Hegel est un excellent lecteur de Kant.
Ça, c'est vrai.
Mais excellent. Excellent, je dirais. Et il pousse très loin le respect de la philosophie kantienne. Voilà. Et Goethe. Parce que, alors, on peut être étonné de mon silence sur Fichte, mais c'est vrai que dans les textes, les opuscules de Goethe, un de ses principaux interlocuteurs, c'est Kant. Hein. Et on va trouver des allusions à Fichte dans d'Exini, dans de la correspondance, dans ces j'ai plus le titre là. Voilà, c'est ça. Donc on va. Mais ce qui donne lieu à un texte, c'est Kant. Kant. Et c'est, je dirais. Non, il a saisi l'esprit de la philosophie kantienne parce que, enfin, je ne crois pas exagérer en disant que la lecture qu'il a faite de la critique de la faculté de juger, ça l'a libéré de l'impossible conciliation entre le poète qu'il est et qui écrit des choses absolument... Moi, j'avais été impressionné dans le séminaire sur Goethe. Il y avait un étudiant anglais qui avait été complètement touché par les passages de Goethe écrits sur la nature en français, la neige qui fond. Ouais, bon, il trouvait que ça... Voilà. Donc, ces passages-là, ils rendent compte de la vie de la nature, et c'est Arthur Forscher qui essaie de l'expliquer. Et alors, où est-ce qu'on retrouve l'homme de dessin? C'est ces planches de plantes qui n'en finissent pas. Parce que faire une planche de plantes, c'est accepter qu'on la fige à un moment donné et qu'on ne peut pas rendre compte du mouvement de déploiement. Et Goethe, ça le met à la torture quand même, ça. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques questions de l'Assemblée ?
Voilà, donc s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup pour cette intervention. J'étais frappé par ce que vous disiez sur l'interprétation qu'on est porté à donner aujourd'hui des dispositions de Faust au fond, au début de la tragédie, qui met en valeur finalement son humanité, mais un certain type de disposition humaine. Vous avez présenté le sentiment d'avoir tout essayé, hein, je crois que vous avez employé le mot dépressif, je crois. Et est-ce que, puisque bon, Laurent s'est forcé de situer le Faust dans une tradition philosophique, à travers cette présentation que vous avez donnée des dispositions de Faust au début de la pièce, moi je pensais à un thème qui est absolument central chez les Pères du désert, c'est le thème de ce qu'ils appellent la satiété. Le sentiment qu'on a tout essayé, cette satiété qui du coup est une porte d'entrée, le tremplin pour lequel on va justement s'ouvrir au diabolos. C'est un thème qui est absolument récurrent. Et est-ce qu'on sait si Goethe avait quelques connaissances de cette tradition, cette réflexion sur la satiété, sur le sentiment d'avoir tout essayé et que...
Il a tellement lu de choses que... c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. En tout cas, sur la satiété par rapport à l'existence, c'est un thème qui traite aussi dans ses poèmes, c'est très présent. C'est-à-dire pouvoir maintenir l'émerveillement, la curiosité... c'est pour ça qu'il, dans son dialogue constant avec Schiller, il dit toujours que lui, il a besoin, dans cette réflexion sur la part du sujet, la part de l'objet, il a besoin des objets, parce que c'est avec les objets qu'on relance son esprit, parce que si on s'abîme en soi et qu'on est... On peut avoir une société de soi-même, mais il pense justement que ça c'est stérile, alors que la richesse du monde donne de quoi toujours... repartir en enquête, aller voir, observer. Donc il y a toutes ces étapes qui font que on n'est pas obligé de subir le dégoût de ce qu'on sait. Parce que finalement, Faust, c'est ça, le début, c'est ça. Il subit quelque chose de l'ordre d'un dégoût de ce qu'il sait. Ça ne l'intéresse plus. Et Goethe avait de véritables tactiques parce qu'il a eu des pannes comme ça en termes d'inspiration hein, par rapport à quoi il dans sa correspondance il l'évoque et il dit il faut que je fasse nouveau un voyage pour réactiver les choses. Donc je pense que psychiquement et sans faire aucune psychanalyse d'artiste, il est très sensible au fait que si on veut être poète, c'est-à-dire être dans la poésis, il faut toujours réanimer l'intérêt et que la satiété est un danger. Après, il dit aussi, il a fait les souffrances du jeune Werther quand il était très jeune, et ça a eu le succès qu'on sait avec cette espèce de vogue des suicides en habit de Werther qui a gagné toute l'Europe. Et il explique bien que, ayant écrit les souffrances du jeune Werther, il n'est pas Werther. Il continue. Et puis après, dans sa grande vieillesse, il écrit un poème magnifique qui est « À Werther » et où il redialogue avec Werther. Mais ce qu'il a fait toute sa vie, c'est échapper à devenir Werther. Et dans le texte, les textes de Benjamin sur Goethe et sur les affinités électives, Benjamin pique tout le temps Goethe en disant oui, il fallait à tout prix continuer à maîtriser quoi. Et c'est ça qui fait peut-être l'impasse de Goethe dans cette espèce de statification classique dans laquelle on a pu l'enfermer. J'ai pas répondu à votre question parce que je n'en sais rien, je suis trop ignorante là.
J'en sais rien non plus. Mais j'aurais une question. cette ouverture. Parce que moi, il y a de la satiété, ça c'est certain, au début du Faust, mais je suis pas sûre si j'irais jusqu'à dire il y a un dégoût général du savoir. Moi, j'ai l'impression, en lisant les débuts du Faust, qu'il y a un dégoût d'un savoir qui, je suis désolée, hein, c'est une sorte d'ancienne, apparemment, de ma lecture du Faust, mais qui permet pas d'agir. C'est ce savoir-là qui me permet pas d'enseigner, qui ne permet pas de convertir, qui permet même pas d'acquérir la gloire ou de l'argent, mais c'est quand même une drôlerie absolue, ce passage-là où il explique, hein, bon, je sais rien, personne me croit, j'arrive pas à enseigner, je sais pas quoi dire, j'arrive même pas à convertir les gens, et par ailleurs, je suis même pas riche. Il y a quand même une déception. Moi, je lis ça quand même, une déception par rapport au savoir, qu'est-ce qu'il ne permet pas de faire.
Oui, mais il y a aussi cette expression de die graue Theorie.
Mais ça, c'est le Méphistophélès.
Oui, mais c'est le gris.
Oui, mais ça, c'est le diable qui dit ça.
Oui, mais qui lui renvoie l'image qu'il donne de ce que donne ça.
Ça, je pense que je serais d'accord avec vous, d'ailleurs vous deux, que de toute façon, le changement à l'intérieur du Faust, l'évolution, elle est très rapide.
Oui.
Elle est très très rapide. Je suis d'accord avec vous que ça passe assez vite du côté de la vie.
Oui.
On n'a pas de rapport à la vie. Mais dans cette scène précise, je crois qu'on n'y est pas encore.
Oui, c'est possible. Oui, oui.
Ça vient encore. Juste après, mais on n'y est pas encore. La première déception me semble quand même ne pas avoir de prise.
Oui, mais c'est quand même une dénonciation, une auto-dénonciation de son impuissance.
Absolument. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez attiré l'attention dans votre commentaire sur le fait que Méphistophélès se déclare impuissant lui aussi.
Oui.
Et que Faust est super déçu.
Oui, c'est ça. Mais on est donc hanté par l'impuissance. Parce que ce qu'on oublie toujours dans les souffrances du jeune Werther, c'est que Werther, il est, bon, bien sûr, il aime Charlotte et Charlotte, etc. Mais c'est surtout qu'il dessine et il n'arrive à rien. Il est un très mauvais dessinateur, il est à chaque fois complètement déçu des esquisses qu'il fait quand il va dans la nature, etc., etc. Et donc, il est un artiste raté. Et tout ce que Goethe fait, c'est d'être un artiste qui n'est pas raté du tout. Donc, dans le rapport à Werther se situe aussi là, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un ratage ? Et Werther, c'est l'amour malheureux, mais c'est aussi ce ratage d'artiste.
J'irais jusqu'à dire qu'est-ce que c'est qu'un ratage réussi. Non, mais parce que c'est ça Goethe quand même. Je trouve, c'est le risque qu'il prend.
Oui, c'est le risque.
Dans sa vie, vous dites par rapport à Schiller, il n'évite pas le ratage, mais juste, il le réussit.
Oui, mais il est aussi celui qui, quand il part en Italie, c'est fuir, jeune homme fuit. C'est fuir Weimar, et donc, c'est là que, Anne Frank war die Tat, Weimar, c'est pas die Tat, il faut y aller, là, parce que si on quitte pas Weimar, on meurt. Donc il est quand même hanté par ce rapport à la mort qui guette. Et la mort, c'est l'absence d'action, l'absence d'action intellectuelle aussi.
Il y a des questions qui viendraient dans le...
Après, je ne sais pas si on va pouvoir les entendre bien, mais on peut essayer. Sinon, en fait, s'il peut le taper par SMS, on peut. Hein, par le chat. Voilà, peut-être en attendant, moi j'avais une question par rapport à la séquence de l'Ur-Faust. En fait, cette dimension de Faust, entre guillemets, comme anti-Job, en fait, c'est-à-dire par rapport à cette question de l'homme livré en fait à lui-même et dans une dimension tragique, en fait, avec la privation très forte de tous les biens par de ce que vit Job. Et ici, en fait, on pourrait dire une illusion, une force de maîtrise, comme vous l'avez dit, et qu'on peut retrouver aussi. Moi, ça me faisait penser aussi, tout ce qu'on peut lire sur certains courants transhumanistes aujourd'hui, en fait, qui insiste, enfin, par exemple, je pense à la version états-unienne de l'extropianisme, en fait, ce côté, voilà, d'amélioration perpétuelle de soi par la technique, où effectivement on se dit, est-ce que on ne passe pas à côté de la vie, quoi, dans ce mouvement. Alors je ne sais pas ce que vous voudriez ajouter, non, c'est-à-dire aussi sur l'opposition, enfin c'est pas dans la première partie, mais avant, enfin sur Faust versus Job. Enfin,
c'est-à-dire que le rapport à la vie, il est bien sûr central, et c'est un réquisite psychique aussi, mais il faut savoir quelle vie. Et je pense que c'est une question qui est posée dans le Faust, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu, et c'est là où il se rattache aussi à la philosophie grecque, c'est-à-dire oui, on est là sur la terre et on fait quoi, c'est-à-dire et c'est une question politique aussi, donc on est là-dedans, c'est-à-dire que le motif de la vie, il est sur ce qui est animé, animant. Mais après, qu'est-ce que je fais moi de ma vie comme sujet ? Ça, c'est une question que Goethe passe son temps à résoudre pour lui-même et dans son œuvre. Parce que c'est le problème d'Iphigénie, c'est le problème de... Les personnages de Goethe sont là sur la Terre, comme nous tous, mais on en fait quoi de cette Terre ? Et cette question, il n'a pas une seule réponse. Il y a plusieurs modes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a toujours le danger de ne pas vivre vraiment la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et comme ce n'est pas une poésie d'idées, comme Schiller, cette inquiétude, elle est là dans les œuvres. Et donc, il y a dans les poèmes, je veux dire, quand il est jeune, etc., il prend son cheval, il se dépêche, il va voir son aimé, etc., etc. Donc, on est là-dedans. Donc, c'est la mise en mouvement pour lutter aussi contre une immobilité qui est funèbre et fatale, quoi. Donc,
De ce point de vue-là, il y a un poème, une série de poèmes emblématiques de cette mise en mouvement, c'est les harpes éoliennes.
Oui.
Puisque c'est le vent qui produit de la musique
dans les cordes.
Dans les cordes, et c'est la seule manière de pouvoir être pris dans un mouvement de vie qui n'est pas déterminé à l'avance, si ce n'est qu'il faut qu'il y ait un vent qui souffle.
Et c'est aussi ce qui fait la richesse de la nature, parce que la nature, elle, les choses meurent et renaissent. Donc il y a toujours cette espèce de reprise dans quelque chose qui est en mouvement. Les plantes, elles naissent, elles poussent, elles meurent, mais il y a d'autres plantes qui prennent le relais. Donc le rapport à la nature, c'est à cette force de vie, et qui est une force formatrice dont nous devons prendre exemple, et où le poète doit aussi faire comme la nature. Et c'est pas une imitation. C'est ça qui est. C'est une espèce de reprise de l'énergie vitale dans le poème lui-même.
Voilà. Dans les questions, donc il y a une personne qui souhaiterait revenir au terme du pacte, mais je sais pas si on peut l'entendre, parce que là. Est-ce que vous pouvez parler, madame ? Enfin, il faut que vous activiez votre micro, parce que, à moins que... Allez-y.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, allez-y. Bon, on vous entend plus, là. Non, bah, ouais. Sinon, sinon on va essayer Monsieur Christophe là. Oui. Voilà. Donc il y a une question. Alors un commentaire sur la question de Faust cherche son désir à partir de poser un acte, et c'est ce que Lacan en dit, ne pas céder sur son désir par rapport à Antigone. Voilà, je sais pas si on sait un peu. C'est vrai que c'est le fait qu'on lise que un chat assez réduit, voilà, c'est pas facile. Ouais. Oui. Mais on entend plus là. En fait, on n'est pas équipé là pour.
Oui, oui. Non, je sais pas par rapport à Antigone et la phrase de Lacan, parce que il y a quand même la loi. Je veux dire, Antigone ne cède pas sur son désir, mais inscrite dans une loi qu'elle.
Ouais, non, mais c'est. En fait, pour ceux qui sont à distance, ça coupe au bout de 5 secondes sur les haut-parleurs ici. Donc, malheureusement, il faut taper votre question dans le chat si vous voulez qu'on la relaye.
Oui. Non, je pense que juste par rapport à. Je pense que Faust, il est sans loi à cet endroit-là. Sans loi à donner. Je veux dire, sans loi transcendante. Il y a que la modernité de ce geste-là, de l'acte, hein, et précisément celui que ce qu'on a dit tout à l'heure, que bon, 1808, hein, c'est quand même jamais que 20 ans, ça fait beaucoup à vrai dire après la Révolution française, mais c'est quand même aussi 2 ans après la phénoménologie de l'esprit, hein, après la question de la liberté absolue, le Vendredi Saint de la liberté absolue qui est trouvée. C'est pas un sujet comme Antigone qui ne cède pas sur son désir, qui a un désir qui est ancré dans une loi qui lui est donnée, pour ainsi dire. Donc, je suis pas sûre si Faust, à cet endroit-là, a un autre désir que de vivre, le fait. Je pense que c'est beaucoup plus ça a beaucoup moins de contenu, en un certain sens, que le désir d'Antigone, qui est un objet, alors que je pense que Faust, il cherche un objet. Et je pense que sur ce point-là, Daniel, elle a entièrement raison. Le problème de Goethe toute sa vie, c'est de trouver des objets pour ne pas mourir. Et Faust aussi, il cherche des objets. Et puis, il peut y avoir du désir dans un deuxième temps. Pour Lacan, ça n'aurait pas de sens que je dis là, je suis d'accord. Mais je pense pour Goethe, à cet endroit-là, ça a beaucoup de sens.
Merci. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question dans la salle? Voilà, bon, c'est une question à mon avis. Voilà, quelle est l'idée essentielle à retenir de cette œuvre? Voilà, je pense que bon courage si c'est une idée qu'il faut retenir.
Mais il est bon que cette question soit posée parce que comment dire, c'est pas une œuvre qui propose un modèle. On peut dire quoi là-dessus? C'est pas une œuvre qui propose un modèle. C'est même pas un modèle de vie. On serait davantage, enfin là je prends des risques, du côté d'un travail sur les attitudes. D'un travail sur les attitudes. C'est-à-dire. Ou bien c'est une œuvre que pour une raison ou pour une autre, un lecteur arrive à rejoindre, ou il est rejoint par cette œuvre et quelque chose se passe, ou bien il se passe rien, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est pas une œuvre où on peut entrer dedans par une sorte d'adhésion au personnage. La question se pose pas. Ça n'est pas le problème, quoi. Donc on n'est pas dans ce qu'aujourd'hui on appelle un peu abusivement tout le temps l'empathie. Faust ne demande aucune empathie et on n'en a pas pour lui. En fait, on est euh, En revanche, on est pris par les questions qui se posent. Mais c'est les questions que pose Faust qui nous préoccupent. On n'est pas dans un rapport individué et individuel à Faust. Faust, c'est une gestalt, en fait. C'est une gestalt des problèmes. Mais totalement vivante. Et c'est là où il nous touche, c'est-à-dire que il a peur, il recule, il recommence, etc. Il est vivant, mais on n'a pas d'identification à Faust. C'est pour ça qu'on avait choisi ce titre. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Parce que c'est plutôt qu'il agit sur nous, mais nous ne nous identifions pas à lui.
Il y a un effet.
Voilà, c'est vraiment la question des œuvres d'art et de l'effet qu'elles peuvent nous faire. Et donc pourquoi nous en avons besoin et pourquoi il serait difficile de s'en passer. Donc et Faust, c'est ça, c'est une œuvre avec laquelle nous cheminons. Quand Yul a dit je l'ai lu depuis mes 13 ans, etc. Il y a des œuvres comme ça qui nous accompagnent, et c'est certainement une des très grandes choses que font les arts, c'est-à-dire de pouvoir nous accompagner comme ça. Par moments, certaines sont une base continue dans nos existences, d'autres sont des fulgurances qu'on laisse, qu'on oublie et qu'on reprend. Mais c'est quelque chose qui nous structure. Et notre besoin d'elle nous structure aussi, d'ailleurs.
Et je pense que sur cet aspect-là, pardon.
Sur cet aspect-là, il me semble que Goethe est proche de Kant. Parce que ce qui intéresse Kant dans une œuvre d'art, c'est l'effet qu'elle produit,
oui,
d'une certaine façon. C'est pas une détermination de ce qu'elle est.
Non, 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 pas du tout. C'est la détermination qui l'a amené à être, et c'est ce qui nous permet à nous de continuer à exister. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'œuvre d'art singulière analysée chez Kant, il n'en a pas besoin.
Il avait un portrait de Rousseau dans son bureau, c'est tout. C'est tout.
Il faut dire que la prose de Rousseau est une œuvre d'art, donc ça c'est sûr. Donc, bon.
Voilà, donc
je trouve qu'on pourrait applaudir Laurent parce qu'il a fait un
travail.
Oui,
un grand merci. Un grand merci pour ces commentaires qui nous ont ouvert davantage cette intelligence du texte, ce mouvement. Et puis, de fait, c'est vrai que même si l'allemand n'est pas sa langue maternelle, en fait, en lisant ça, enfin, il y a un souffle effectivement assez extraordinaire dans ce texte. Et alors, c'est peut-être dommage effectivement qu'on entend ici ou là qu'en Allemagne finalement le Faust recule un peu dans le cursus, peut-être dans certains Länder ça fait plus partie des œuvres pour l'Abitur ou les choses comme ça. Enfin bon.
Mais Racine ne fait plus partie des œuvres dans nos... C'est pareil.
Voilà, voilà. Donc, dans tous les pays, nous avons le même type de souci.
La Bavière, oui, mais la Bavière,
voilà,
est un
voilà.
Rock. C'est bien connu.
Très bien. Bon, mais en tout cas, bonne soirée à tous.
Merci beaucoup. J'adore ces Bayern dans l'éternité.